Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08 de retour dans les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi, vous le savez. Merci infiniment de nous écouter toujours aussi nombreux, que ce soit en direct, en podcast. Sachez que nous avons évoqué le France-Croatie de jeudi. Demain, il y aura le match retour. On en parlera évidemment dans cette émission. On a évoqué également ce Grand Prix de Chine avec la pole position d'Oscar Piastri, puis cette victoire lors de la course sprint cette nuit de Lewis Hamilton, mais également de la mort de George Foreman avec Jean-Philippe Lustig. Voilà, si vous voulez réécouter tout ça, ce sera tranquillement cet après-midi. Toujours avec Denis Charvet, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les violences en tribune qui ont lieu le week-end dernier en Ligue 1. Faut-il systématiser les matchs perdus sur tapis vert? Ce sera notre question. 11h30, le dossier des GG, c'est un peu complexe, mais c'est passionnant. Une vingtaine de joueurs et joueuses de tennis ont porté plainte cette semaine contre l'ATP et la WTA pour dénoncer leur traitement. Est-ce que c'est aux sportifs de prendre le pouvoir dans les instances? On se posera cette question. Et puis, il y aura le zapping des GG. Nous avons un peu bouleversé le programme de cette émission. On parlera de Lou Jean Monod qui joue très gros en biathlon ce week-end. Également des frères Lebrun. Bref, restez bien avec nous jusqu'à midi. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Jean-Paul Sartre qui a dit un jour, la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Monsieur Le Texier est venu séparer Montpellierains et Stéphanois parce que Stassin était en train de s'invectiver avec des Montpellierains et on a fait rentrer très très vite les CRS devant le parkage. Il y a des projectiles qui sont lancés vers les CRS pour le moment et je pense que les CRS ça va finir par gazer si ça continue comme ça. Il y a un nouveau feu qui vient de partir du côté de la butte Payade juste devant les CRS. Voilà, Monsieur Le Texier qui renvoie tous les joueurs pour le moment dans les vestiaires en attendant que le calme revienne. Interruption définitive de la rencontre.
Ça y est, c'est ce que nous dit Florian.
Le match est définitivement interrompu à l'instant. On demande aux supporters de quitter le stade en respectant les consignes d'évacuation.
Ah, terrible, ça fait encore plus mal, surtout dans le match où on pouvait être en survie. Je leur avais demandé de nous laisser encore cette chance. Malheureusement, on n'a pas su la saisir. J'en veux à personne.
PSG Marseille, Montpellier Saint-Etienne, ces deux matchs de Ligue 1 du week-end dernier ont indigné le foot français pour des raisons différentes. Les banderoles abjectes contre Adrien Rabiot et sa famille lors du classique d'un côté. Un feu dans les tribunes de la Mosson, vous l'avez entendu, après des jets de fumigène de l'autre. Deux événements, deux faits qui se sont retrouvés évidemment devant la commission de discipline de la LFP mercredi. Cette commission qui a décidé de reporter son verdict à début avril. Alors d'un côté, les Marseillais se demandent pourquoi le classique n'a pas été arrêté. De l'autre, les Stéphanois espèrent qu'ils gagneront cette rencontre sur tapis vert, alors que les Montpellierains veulent la rejouer, cette rencontre. Alors, pour éradiquer ces violences, les instances vont-elles vouloir frapper un grand coup? La musique qui fout les jetons est cette question. Et je vous en propose un de grand coup, les GG, ce matin. Faut-il systématiser les matchs perdus sur tapis vert? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Denis Charvet?
Oui, malheureusement.
Marion Bartoli?
Oui.
Jérôme Pinault.
Malheureusement, oui.
Oui aussi. Alors, je tiens à préciser à tous nos auditeurs que tous nos débats font débat et qu'évidemment, Denis Charvet a encore changé son avis par rapport à hier sur WhatsApp. Je vais vérifier ça dans quelques instants.
Vérifie.
Tu as raison de dire, tu as le droit de dire oui.
Je regarde parce que.
Mais hier, tu m'as répondu non. C'est pas grave. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport. C'est Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut GG. Salut à tous.
Alors, match perdu sur tapis vert.
Mais c'est pour ça qu'on aime, Denis.
C'est extrêmement rare en France quand même.
Oui, et les conditions menant à cette décision sont souvent variées. Dernier exemple en date, le 23 décembre dernier, le Tour FC est éliminé sur tapis vert de la Coupe de France. La raison, son incapacité d'organiser son 32e de finale face à Lorient. En Ligue 1, il faut remonter à la 33e journée lors de la saison 2016-2017. Lors du match entre Bastia et Lyon, Memphis Depay provoque les supporters corses. Plusieurs dizaines de fans déboulent sur la pelouse pour en découdre. La LFP décide de donner une victoire aux Lyonnais sur tapis vert. Autre exemple, encore plus rare, en 2021, obligé par des nombreux tests positifs au Covid-19 de se rendre à 8 sur le terrain de Jura Sud, Louan Cuiseau espère peu de ce match, mais la douleur des Louanais sera de courte durée. 52 secondes après le coup d'envoi, un de leurs joueurs se blesse. Louan Cuiseau est réduit à 7. L'arbitre arrête le match. Il sera donné sur tapis vert finalement aux Jurassiens.
Merci beaucoup Arthur pour ces précisions. C'est vrai que tu as interrogé l'histoire, ça arrive peu souvent et pourtant on se repose la question de savoir s'il faut arrêter les matchs. Et à un moment donné, c'est 3-0 pour l'autre équipe. Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Alors Denis, t'as remis tout ça en marche? C'est oui, c'est non, c'est quoi?
J'ai dit oui. Je suis en train de regarder.
T'avais commencé par dire non, puis t'as dit oui.
Oui,
il a fini par oui et non.
Alors rentrons dans le débat. Magique. Pourquoi oui?
Magique Denis.
Mais non, bon, j'ai pas dit non, j'ai dû me tromper, voilà.
Ouais, très bien, vas-y.
Non, mais je pense qu'il faut être sévère, tout simplement. Le problème, c'est que c'est vrai que je pense à Montpellier, ils vont être sévèrement punis. C'est des spectateurs, puis en plus c'est une minorité souvent qui engendre ces faits-là. Mais après, comment on peut éradiquer ça? Comment on peut faire à part être très très sévère? Je sais pas comment. J'ai pas de solution. Le problème, c'est que. Si tu remets pas sur tapis vert, si tu refais jouer le match maintenant de Montpellier contre Saint-Etienne, on va où, quoi? Je sais pas, moi. Je pense qu'il y a pas de solution. La seule solution, c'est de sanctionner sévèrement.
Il faut une valeur d'exemple.
Ok, la valeur d'exemple. En même temps, ça ne veut pas dire que ça va.
On ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il faut effectivement en venir à ces extrémités. Et pas seulement pour le match entre Montpellier et Saint-Etienne. Je pense que dans le cas de, du match entre le Paris Saint-Germain et de Marseille, il aurait fallu, là aussi,
arrêter
le match et le donner match gagné à l'OM. Peut-être que là, ça ferait réfléchir les bas du front qui balancent ce genre de banderoles dans les stades. Ça ferait peut-être aussi réfléchir les présidents de clubs qui, on n'avait pas vu les lettres, on savait pas ce qu'il y avait sur la banderole. Mais si tu les mets leur nez dans le caca, peut-être qu'un jour, ils vont en faire réagir. Parce que là, si tu donnes le match perdu à Paris, à cause de cette histoire-là, je suis désolé.
Là, c'est un retentissement national.
C'était la seule possibilité pour l'OM de gagner à Paris.
Ça ne les empêche pas de devenir champion de France. Mais là, il y aurait, à mon avis, ce genre de mesures très sévères qui feraient beaucoup de retentissement et qui pourraient permettre de faire changer les choses.
Juste, sortons parce que je préfère préciser aux auditeurs, sortons du clubisme et de ce côté, parce que les autres ont fait ça.
Mais Marseille aurait mérité aussi des matchs perdus sur tapis vert à d'autres occasions.
Avec Valbuena.
On donne les deux derniers exemples.
C'est pour ça que, évidemment, si on remonte dans l'histoire, on peut tous se dire oui, mais là, il y a eu ça, oui, mais là, il y a eu ça. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se réunir et se dire, OK, il y a ce genre de débordement, que ce soit violence physique, comme ça aurait pu être dramatique à Montpellier, violence verbale, comme c'est le cas donc lors du classique, et là, se dire, OK, on va peut-être donner quelques matchs perdus sur tapis vert, et là, peut-être que ça va tout changer. Ben oui. C'est l'idée, évidemment.
Oui,
il faut sortir du clubisme, les copains.
À un moment, il faut appuyer un peu plus fort, quoi.
C'est de la responsabilité des clubs de gérer leurs supporters dans leur stade et de faire passer les bons messages. Maintenant, il faut savoir aussi prendre la mesure. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est que un match perdu sur tapis vert, moi, ce qui m'embête toujours, c'est que les mecs sur le terrain qui font le match, eux, n'y sont pour rien. Ouais. C'est pas eux les violents. Eux les acteurs. Et il y a certains clubs où ça arrangerait certains supporters.
Oui.
Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut savoir identifier, et ça, c'est possible, mais encore faut-il le vouloir identifier les fauteurs et les dénoncer. Et c'est pas toujours le cas. Ce qui se passe à Montpellier, Denis, bon, clair, net, il faut donner tapis vert. Oui. Il faut arrêter le carnage. Là, c'est de la violence urbaine quasiment.
Surtout en plus que Saint-Etienne mène 2-0.
Ce qui se passe parfois dans les tribunes avec les banderoles et les tifos. Il me semble que les messages et les banderoles n'arrivent pas par le Saint-Esprit dans les stades. Donc on le sait à l'avance. Donc comment on peut encore
sanctionner ça encore?
Et on a le temps de sanctionner financièrement. On sait très bien que pour certains clubs, c'est pas grave. Oui. Le message passe et l'amende, tant pis.
Marion.
Non, mais moi, clairement, je rejoins totalement mes collègues. Et puis surtout, ce que je trouve hypocrite, c'est qu'en fait, on sait très bien que les tifos, surtout sur ce match-là en particulier, étaient préparés depuis 4 ou 5 mois, qu'il y avait énormément de bandes à faire rentrer pour arriver à aligner cet immense tifo. Donc, il ne faut pas me raconter qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. Après, pour moi, là où je ne veux pas stigmatiser un club, c'est que il y a eu des débordements quasiment dans tous les clubs en
Bien
France.
Bien sûr.
Quasiment dans tous les clubs en France. Et qu'en fait, si les sanctions ne sont pas exemplaires, ça ne s'arrêtera jamais. Entre les jets de projectiles sur des coups de pied arrêtés, entre les insultes racistes, entre l'homophobie, entre les débordements des supporters. Si tu n'arrives pas à malheureusement, hein, pour les clubs, à les sanctionner d'une telle manière que ça... Ils savent que si ça se reproduit, ça sera beaucoup trop pénalisant pour eux. Bah, en fait, on ne se sortira jamais de ce système parce que les pénalités étant, les pénalités étant trop faibles. Bah en fait tu continues parce que tu dis bah finalement je suis passé entre les gouttes donc pourquoi pas la prochaine fois et puis ça finit par être un jeu en fait tu vois tu dis bah là jusque où je peux pousser le bouchon sans me faire attraper mais en faisant passer quand même mon message mais du coup quand même bah finalement on a gagné le match et puis mon club que j'ai supporté ou ce que j'ai voulu faire comme acte bah finalement c'est passé on n'a eu aucune sanction et en fait si tu veux si tu mets pas un coup d'arrêt c'est un petit peu comme l'hooliganisme en Angleterre. Si à un moment donné, ça n'a pas été décidé par la première ligue de dire, voilà, là, c'est stop, c'est fini. Tous ces combats de rue, tout cet hooliganisme, on n'en veut plus et donc on va sanctionner de manière extrêmement sévère. Je pense qu'on va se retrouver, devant des problèmes de plus en plus importants.
Le problème, c'est que ces gens, ils viennent, c'est un exutoire pour certains. Voilà. Ils sont là pour venir insulter.
Mais ils n'ont rien à faire dans un stade.
Non, mais attends, laisse-moi finir. Ils sont là pour se défouler. Ils sont pas là pour voir un match de football. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'est difficile.
T'as pas beaucoup de moyens de pression sur eux.
Oui, hein, voilà.
C'est que certains supporters, encore une fois,
certains, on ne parle pas de la majorité, c'est pas...
de faire perdre des points à leur club, ils s'en tapent. Hein.
Mais complètement.
Ils s'en fichent. C'est pas
leur souci. C'est ça le problème.
C'est-à-dire que les gens, il y a un certain groupuscule de supporters qui viennent au stade, comme tu dis, chanter, crier leur haine, la frustration qu'ils ont à la maison, etc.
Mais
identifier cela.
Mais ils n'ont rien à faire là.
Oui, mais alors identifier cela.
Aujourd'hui, avec toutes les caméras qu'on a, on ne peut les identifier.
C'est pas évident, Marion, c'est très dur.
Pas tant que les caméras. On a fait un match international dans la Ligue des Nations où l'UEFA prend un pognon monstre sur un penalty. Il y a un mec avec un laser qui a reculé le penalty pendant 5 minutes sur un match international il y a 4 jours.
On a pas pu l'arrêter.
Donc les stades ne sont pas équipés pour ça.
Moi j'ai une idée. S'il y a des débordements de supporters d'un club, eh bien tu décides que la fois d'après ou la saison suivante face à ce même club, tu interdis aux supporters du club de rentrer dans le stade et tu autorises les supporters adverses à venir dans les bases.
J'imagine à gérer en termes de sécurité cette rencontre. C'est magnifique.
Ce qui est dommage et préjudiciable pour le Spoudol et pour les clubs, c'est quoi? C'est que beaucoup de clubs et de clubs de supporters aussi se plaignent. Oh oui, la Ligue par-ci, on fait des banderoles, on n'est pas autorisé à se déplacer. Mais les mecs, c'est normal qu'ils arrivent pas, ils peuvent pas être autorisés à se déplacer. Ils savent pas se tenir. Et la seule sanction possible et imaginable aujourd'hui, sans partir, c'est d'interdire et de faire perdre le match.
Il y a un argument que vous ne me donnez pas, et je pense que la commission de la LFP n'ira jamais jusque-là sur ces matchs perdus sur tapis vert, c'est vendre le produit. Je veux dire, notre Ligue 1.
Ah là, ils pouvaient pas interrompre le PSGOM.
Non, mais à un moment donné,
ça aurait été une catastrophe.
On en est déjà rendu à vendre notre football pour un casse-dalle de chez McDo. Heureusement, là oui, c'est
mais
ça.
Mais non, mais il faut qu'on se pose la question. Moi, ça fait 5 ans que je présente cette émission. Et 5 ans qu'on nous dit, oui, mais on peut rien faire contre les fauteurs de troubles et puis la responsabilité des clubs et tout ça. Et à chaque fois, il n'y a pas de sanction
véritable,
ferme et. Mais il faut bien, la Ligue ne peut pas arrêter tous les matchs. Parce que sinon, votre produit est dévalué. Qu'il est déjà pas bien à côté. Et derrière, comment vous faites avec les diffuseurs? Si le diffuseur se dit, attends, c'est moi mon classique, il va être arrêté au bout de la 30e minute. Non, merci.
Ce qui se passe dans la tribune à Montpellier. Club de. Moi, j'ai une grosse pensée aujourd'hui pour mon pote Bruno Carotti. Parce que la situation est dramatique à ce qui se passe à Montpellier. Alors, on reste dans le cadre du sport, mais c'est très triste ce qui est en train d'arriver. Montpellier, on sait, Nicolas, un grand soutien. Du président de la Ligue. Ce qui se passe à Montpellier, c'est de la guérilla urbaine. C'est-à-dire que c'est encore pire pour le produit Ligue 1 et pour le diffuseur qu'un match qui serait pas joué. C'est encore pire de voir ça, d'être dans l'incapacité de créer du spectacle, de remplir un stade. Et avec le peu de gens qu'il y a au stade, d'arrêter le match parce qu'ils sont en train de se taper dessus et de foutre le feu à la tribune. C'est dramatique.
Oui, mais ce que te dit l'argument de JC et d'autant plus recevable que tu ne veux pas,
pas
te tirer une balle dans le pied, tu vas te tuer.
Enfin, oui, la sanction.
Non, mais c'est la vérité.
Il y a une logique commerciale. Enfin, moi, je veux bien qu'on se dise, on va pas être hypocrite. Moi, je veux bien tout ce qu'on se dise. Attendez, il faut arrêter tous les matchs et tout ça. Mais on sait très bien que nous.
On ne peut pas arrêter les matchs. Il faut juste.
Tu ne peux pas arrêter tous les matchs. C'est impossible.
Et c'est dans l'espoir. J'y sais, c'est quand même dans l'espoir que les gens réagissent, que ça cesse.
Que la prévention.
Que la sanction fasse réagir. Sinon, effectivement, si tu dis, ils vont continuer, dès qu'ils vont revenir au stade, ils vont refaire pareil, donc il y aura un match sur quatre de jouer. Bah, évidemment, là, du coup, c'est dramatique et on va plus loin. En revanche, si la sanction est prise, retrait de points ou match perdu, écoute, j'espère au moins que la réaction viendra
déjà,
et que les clubs agiront. Bah, c'est surtout à eux d'éradiquer le truc, hein, de toute manière. Et, je veux dire, au PSG, on n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment envie d'éradiquer les fauteurs de troubles. Ils l'ont eu.
Ils l'ont fait. Tu sais,
si ça n'avait pas été en prime time PSG Marseille, je suis sûr que ça aurait été arrêté. N'importe quel autre match aurait été arrêté. Vu ce qui s'est passé ce soir-là, moi j'étais au parc, mais moi j'ai pensé, j'ai dit, ils vont l'arrêter, c'est pas possible. Entendre des choses comme ça. Alors, c'est pas la première fois, on est d'accord.
Ça a choqué tes oreilles.
Ah, moi, ça m'a choqué, oui. À un moment donné, puis la bande de rôle. La bande de rôle, je trouve ça, par rapport à Rabiot, ce qu'ils ont fait à Rabiot, c'est lamentable, mais c'est même honteux.
Et on rappelle aussi, parce que c'est toujours important de le rappeler, même à nos auditeurs, ceux qui sont passionnés de foot, ceux qui supportent leur club. Évidemment, ce qui s'est passé avec Bradley Barcola à Lyon, était indigne aussi. Il s'est fait insulter toute la rencontre.
Valbuena au Vélodrome.
Valbuena au Vélodrome. Mais il faut bien commencer. Par quelque
bien
part.
Sûr, bien sûr.
Alors
mais,
évidemment.
Pour en revenir à ton débat sur le fait que le produit, faut le vendre. Mais je suis désolé. On l'a déjà eu des cas de sanctions de geler la tribune, tribune interdite. Mais quand tu fais le stade que je connais mieux, c'est la Beaujoire. Un match à la télévision, diffusé à la télévision, un match sur la Brigade Loire. C'est nul, c'est pas vendable. Ouais. Tu regardes le match sur la pelouse en ce moment, c'est catastrophique. Et en plus, il y a pas de spectacle. Il vaut mieux rien faire, en fait, des fois, parfois, pour pouvoir que les sanctions soient prises et conscience soit prise. Après, évidemment,
et de toute façon, la Ligue 1 a déjà une valeur qui est quasi nulle.
Si les sanctions prises, ça fait pas bouger les choses et que les clubs disent, on a encore pris 3 points et on va pas jouer, c'est pas normal, et qu'ils agissent pas en amont, moi, je suis désolé. Le supporter et les clubs de supporters doivent être gérés par les clubs eux-mêmes. Et évidemment que quand tu fais rentrer des tifos de centaines de mètres de long et des messages, tu ne peux pas te dire, avec des responsables de la sécurité dans tous les clubs, bien tu ne peux sûr. Pas dire que tu n'es pas au courant.
Clairement.
Ouais. Ok, bon, on a bien compris votre sentiment, les GG. En tout cas, c'était important ce matin de reparler de ces violences dans les tribunes, même si c'est un week-end qui n'est pas un week-end de Ligue 1, mais un week-end de Ligue des Nations, avec demain ce match entre la France et la Croatie. Ça va se passer au Stade de France. On va se retrouver dans quelques instants pour le dossier des GG. On va parler de ces joueurs et joueuses de tennis qui ont décidé de porter plainte contre leurs instances dirigeantes. On va tout vous expliquer. Évidemment, on va mettre ça sur la table dans les grandes gueules du sport. Et puis vous rappeler aussi sur RMC, depuis une semaine, il y a le grand jeu des 100 000 euros. Vous pouvez remporter 100 000 euros sur RMC. C'est très simple. Il faut nous écouter. Et à un moment donné, vous entendrez un top signal. Et là, il faudra jouer, évidemment. Parce que ça peut vous aussi vous arriver. 100 000 euros. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est la deuxième fois sur RMC. Bonne chance à tous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30, toujours avec Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Denis Charvet, Christophe Cessieux. On vous donnera plein de petites infos, si ça vous intéresse ou non, dans le zapping des GG dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous. Milan San Remo, le week-end décisif de Lou, Jean Monod, ou encore la perchiste française Marie-Julie Bonin, qui a signé une performance extraordinaire cette nuit. Notre perchiste, je vous compte tout ça dans une poignée de secondes, si ça vous intéresse ou non, car ce sera le on s'en fout pas.
RMC, le dossier des GG.
Alors, qui a dit que les joueurs de tennis étaient parfois trop sages, trop lisses? Une vingtaine d'entre eux ont décidé de porter plainte cette semaine contre leurs instances dirigeantes, à savoir l'ATP, la WTA, l'ITF ou l'ITIA. Une série d'actions en justice menées par l'Association des joueurs de tennis professionnels, cofondée par Novak Djokovic en 2019. L'objectif, dénoncer le traitement que ces joueurs subissent actuellement sur le circuit. Alors, pour bien comprendre la situation, et ensuite on parlera, évidemment, on élargira le débat aux instances et au pouvoir des sportifs. On va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Alors pourquoi ces joueurs
à nous aussi, Eric,
ont décidé de porter plainte, tout simplement?
Ouais, c'est vrai que la bombe a explosé en début de semaine. Ça semble sérieux parce que la PTPA s'appuie notamment sur un avocat, James Quinn, qui a longtemps travaillé avec les syndicats des joueurs en NFL et en NBA. Alors quels sont les principaux reproches? D'abord, on subodore que les instances dirigeantes se sont entendues pour plafonner le prize money des tournois et limiter la capacité des joueurs à gagner de l'argent en dehors des cours. Concrètement, on met des barbelés pour éviter les fameuses exhibitions. Autre grief, la redistribution des bénéfices des grands chelems jugés trop faible. Le chiffre actuel est de 17%. C'est très très loin de ce qui se pratique dans le golf, la NBA ou le foot américain. La PTPA s'appuie aussi sur un chiffre fou et qui va vous faire réagir. La vente de cocktails à l'US Open a généré 12 800 000 dollars. Soit plus que ce qui était versé aux deux vainqueurs de
ça. Ouais, mais ça, c'est Marion aussi, hein, qui a fait monter.
C'est vrai qu'elle a consommé énormément. J'en étais témoin,
à mon avis. Là.
En gros, ce syndicat en a marre que les ordinateurs se goinfrent. La PTPA dénonce aussi un mépris flagrant du bien-être des joueurs. Elle fait allusion aux matchs qui sont lancés autour de minuit. Le syndicat est aussi désespéré de voir que seulement 400 joueurs, en gros 200 joueuses, 200 joueurs et 200 joueuses, donc, vivent correctement de leur sport. Le circuit Challenger est une jungle. Je vous donne un exemple. Si tu perds au premier tour cette semaine à Murcie, tu rapportais 950 euros. C'est-à-dire que tu perds quasiment de l'argent. Et là, on parle de mecs qui sont dans le top 200 de leur discipline. Novak Djokovic n'a pas validé le terme cartel, mais on devine que le fait que l'Italie s'accapare toutes les épreuves annexes, le Masters, la phase finale de Côte d'Ivoire, ça commence à agacer. Et je rappelle que le président de l'ATP, Andrea Agnelli, est italien. Mais pour que le mouvement fasse trembler les instances, il faudrait que tout le monde prenne les fourches. C'est encore loin d'être le cas. Les nantis qui finissent l'année avec plus de 10 millions de dollars de gains hésitent à apposer leur signature.
Ouais, déjà, Alcaraz s'est désolidarisé. Et puis, je vous parlerai aussi de Novak Djokovic qui a parlé hier, ou en tout cas en cette fin de semaine, après évidemment ce dépôt de plainte. Merci Eric Salio. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat parce que c'est très intéressant. On va l'élargir. Mais déjà, Marion, c'est évidemment ton sport. Est-ce que tu arrives à comprendre cette plainte déposée par quelques joueurs de tennis?
Alors, je me suis entretenue hier avec Romain Rosenberg, qui est donc le directeur exécutif de la PTPA, c'est le numéro 2 de la PTPA, pour qu'il m'explique vraiment exactement les dépôts de plainte qui ont été déposés. Donc, en fait, ça a été déposé sur 3 juridictions différentes, à New York pour les États-Unis, à Londres et également auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. Et en fait, le fond du problème, et je vais vous citer un exemple qui va être extrêmement parlant, c'est justement sur les price money, comme l'évoquait tout à l'heure Eric. En fait, il y a un plafonnement qui est régi par l'ATP, donc, et la WTA également, qui dit qu'effectivement, la répartition des prize money, en fait, c'est eux qui la font. Et c'est pas les tournois. Alors, il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi d'Indian Wells qui vient de se dérouler. Là, en ce moment, les joueurs sont à Miami. Indian Wells, c'était la semaine dernière. Et le patron du tournoi d'Indian Wells s'appelle Larry Ellison. C'est un milliardaire qui a fondé le logiciel Oracle, qui vient de la Silicon Valley et qui, lui, avait l'intention d'augmenter les prize money cette année pour les joueurs et les joueuses en se disant, mais finalement, si on donne un chèque qui est plus gros à la fin, ça fait plus parler de mon tournoi. Il y a plus d'attention médiatique. Les stars de Hollywood vont plus venir pour assister à mon tournoi. Les sponsors vont être contents. Donc, finalement, tout le monde est content. Cet écosystème économique me convient et moi, je veux donner plus d'argent aux joueurs et aux joueuses. Sauf que l'ATP, la WTA, lui ont dit non, puisque c'est nous qui déterminons le gain réparti aux joueurs et aux joueuses du premier tour des qualifications jusqu'au vainqueur final, que ce soit en simple ou en double. Donc, c'est pas à vous de nous dire comment on répartit l'argent. Et en fait, le fond du problème de cette plainte qui fait quand même 160 pages, il est vraiment orienté là-dessus. Ensuite, effectivement, il y a aussi la partie des matchs qui sont lancés trop tard. Il y a la partie de la violation des droits du travail. Il y a la partie du droit à l'image également. Mais vraiment, le plafonnement artificiel des prize money, c'est là où les joueurs et les joueuses se battent le plus, en se basant sur la loi antitrust, en particulier aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont pris ce gros avocat américain qui, lui, a travaillé sur le procès de la NFL, puisque la NFL, aujourd'hui, a fait jurisprudence. Ce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais auparavant, effectivement, chaque joueur était assigné à un club, il y a une franchise précise. Et donc, il y avait ce système de free agency, donc où les joueurs réclamaient de pouvoir bouger de franchise tel qu'ils le voulaient. La NFL avait déclaré que ça serait la fin de leur ligue si jamais on faisait ça. Or, aujourd'hui, la NFL est de loin le sport qui génère le plus d'argent. Il faut savoir que dans le tennis, de manière globale, génère un revenu annuel d'environ 2,5 milliards de dollars. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui n'est pas beaucoup, parce que le cricket, qui est un sport pratique quand même que par quelques pays génère déjà lui 3,5 millions de dollars.
Donc c'est ce qui est dénoncé par les joueurs, c'est qu'ils n'ont pas assez de ces revenus. Rapidement, non, Marion, après on passe la balle.
Vas-y. Très rapidement, mais le problème, c'est que c'est pas bien sûr Djokovic, Sinner, Alcaraz qui gagnent des millions et des millions qui vont se plaindre. Mais aujourd'hui, il faut bien savoir qu'un joueur qui est 80e mondial, même pas 150e ou 200e joueur, quelqu'un qui est capable de rentrer par son classement dans tous les tournois du Grand Chelem, ce qui est déjà un excellent classement et qui est déjà très dur à accomplir. Il faut bien savoir qu'au début de sa semaine, c'est à lui de payer son entraîneur, c'est à lui de payer son préparateur physique, c'est à lui de payer son kiné s'il en a un. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est un coût qui est élevé. Et vous ne gagnez pas d'argent quand vous ne jouez pas. D'accord? À moins d'avoir des sponsors élevés. Mais encore une fois, si vous êtes 80e mondial, généralement, vous n'aurez pas des sponsors élevés. Donc votre revenu majeur revient de votre prize money que vous gagnez dans chaque tournoi. OK? Donc aujourd'hui, même sur un Master 1000 qui est quand même fait partie des très gros tournois, après les 4 tournois du Grand Chelem, c'est les tournois qui donnent le plus d'argent. Si vous perdez au premier tour de ce tournoi, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire qu'entre le fait de payer vos billets d'avion, de payer vos billets d'avion de toute votre équipe, leur hôtel.
Alors attends,
la solution, c'est la répartition qui doit être meilleure.
Novak Djokovic qui a déclaré, et c'est vrai qu'il est dans une position délicate parce que c'est lui qui a cofondé cette association des joueurs de tennis professionnels. Non, mais délicate parce que maintenant, est-ce qu'il peut signer? Il dit, je pense pas devoir signer parce que je veux que d'autres joueurs s'impliquent. Je pensais que c'était aussi mon rôle de soutenir les joueurs et de me battre pour leurs droits. En 20 ans sur le tour, j'ai vu des changements, mais il y a des changements fondamentaux qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà, donc il dit aux autres de se positionner.
Ouais, il faut qu'il signe lui.
Et c'est vrai que lui, il a une résonance et un écho évidemment fondamental. Déjà, de voir des joueurs de tennis qui portent plainte contre leurs instances, est-ce que vous, ça vous paraît aberrant quand vous connaissez votre sport, par exemple le vélo, où on se demande souvent quel est vraiment le rôle et le poids des sportifs.
Moi, Jérôme Pinault. Je trouve ça fantastique. Et j'aimerais que beaucoup d'autres acteurs et de notre nombreux sports et dont le mien fassent d'eux-mêmes. Là, on parle d'argent, mais on parle aussi de trop de matchs, de la sécurité. On parle énormément. Il y a énormément de soucis dans le mien de sport. Mais moi, je trouve ça bien. En fait, ils se prennent en main. Alors évidemment que si le meneur ne signe pas le premier et se met pas en avant, ça peut pas marcher. Il faut aussi. Moi, je tire mon coup de chapeau à ces joueurs, à ces joueuses qui disent stop. Et qui disent à un moment donné, si nous, on dit stop, il n'y a plus rien autour. Et c'est ça qui est important. C'est que
c'est
l'écosystème,
faut
part.
Grève, hein, pour qu'il y ait un vrai
et comment font les joueurs NBA? Lockout terminé, on joue plus. Vous n'êtes pas d'accord? L'oseille que vous gagnez tous, c'est grâce à nous sur le terrain.
Mais là, en NBA, ça, moi, je trouve que l'exemple est flagrant. C'est-à-dire que les sportifs, les joueurs de NBA ont plus de poids que la NBA en elle-même.
Mais ça devrait être le cas dans beaucoup de sports, par tous les sports, parce que le spectacle sur la pelouse, sur les pelouses, sur les courts, sur la route. Moi, j'ai toujours dit ça. Les équipes, c'est important. L'organisateur est très important, mais la base, au Tour de France, le jour où on enlève les coureurs, la course, c'est pas la même. Le spectacle, il n'y a plus de spectacle. On doit quand même être conscient.
Ouais, mais si tu dictes des conditions aux organisateurs qui.
C'est pas dicter des conditions. Au moins donner des conditions à toi et te dire on n'est pas d'accord avec ça.
Non, mais
ça,
d'accord,
et
mais
ça,
j'ai en
d'une
moment,
seule et même voix. C'est
en
ça
ce
le
moment,
plus
dans
important.
Le vélo, il y a un peu une bataille entre d'un côté les coureurs, de l'autre côté les organisateurs. Les coureurs reprochant aux organisateurs de ne pas assurer la sécurité, de les faire repartir quand il pleut et tout ça. Moi, je veux bien. Mais si tu annules toutes les courses, tu ne les fais pas repartir. Demain, les coureurs cyclistes n'auront plus de boulot. Parce que les organisateurs fabriquent des courses, les courses auxquelles participent les coureurs, et c'est dans ces courses qu'ils sont payés. Donc à un moment donné, il faut aussi arriver à un juste équilibre. Ouais. Tu peux pas tout révolutionner en disant on veut des meilleures conditions.
Il y aura toujours
ouais,
des courses.
Vois,
il y aura,
tout,
il y a des courses pour l'élite. Le problème du tennis qui est dénoncé là, c'est la position de Djoko, c'est de dire moi je fais partie des privilégiés, ouais. Mais derrière les 80, les 80 ça, après ça, les 80 oui. premiers, et nous dans le vélo, c'est ça, Christophe, ce qui va se passer, c'est que les grandes équipes.
Vous, le modèle économique,
les grandes équipes vont rester. Il faut compliqué. Savoir quand même que dans d'autres sports, des teams entières, et donc là les coureurs vont réagir. Je finis juste, des teams entières sont menacées de disparition. On s'est bien moqué de ce qui m'est arrivé pour certains il y a 2 ans. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui. Je peux te dire que c'est chaud. deux d'entre elles vont certainement disparaître
en fin d'année. Et pareil, il y a des courses qui sont en menace disparition de plus en plus.
Mais tu sais,
tout le monde est lié, donc il faut aussi qu'il y ait une espèce de solidarité entre organisateurs, entre fédérations, entre acteurs, entre anciens acteurs.
Et entre sportifs, surtout, parce que sinon, ça a peu de chances d'aboutir. Denis, après Marion,
dans le rugby, il y a six mois ou un an, je ne sais pas, c'est Antoine Dupont qui est monté au créneau, souvenez-vous, qui a dit que les joueurs de rugby ne touchaient pas assez d'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sortie qu'il avait faite, et à juste titre quelque part, parce que c'est vrai que par rapport au football, mais en même temps la réalité, l'économie de ce sport ne permet pas de payer les joueurs plus. Déjà lui c'est un privilégié, mais je comprends son raisonnement, mais la vérité c'est que si tu fais parler dans l'occurrence Antoine monte au front avec il commence à dire pour laisser camarades parce que c'est le plus médiatique. Mais en même temps, prendre parler à Thomas Lombard, à des acteurs qui tiennent des clubs, mais c'est...
Ils peuvent pas, mais ce que nous dit Marion, là, dans l'exemple du tennis, c'est qu'ils peuvent. C'est la répartition qui va pas du tout.
La répartition sur les gros tournois du Grand Chelem, Marion, mais est-ce que sur les
Master tournois,
un 250, par exemple, est-ce que les mecs, les organisateurs roulent sur l'or à tel point qu'ils se payent des Porsche et tout ça? Comment ça se passe dans ce système-là?
Non mais en fait, si tu veux, même toi en tant que joueur, faut bien comprendre que ton année financière, tu l'as fait sur les tournois du Grand Chelem et des Master 1000. C'est pour ça que c'est vital pour les joueurs d'avoir un classement qui leur permette de rentrer dans les tableaux finaux de ces tournois, parce qu'il y a entre guillemets que là où tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais un ATP 250 ou un WTA 250, si tu n'atteins pas au minimum la demi-finale, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent sur la semaine parce que t'as trop de frais. Donc en fait, ce que font les joueurs malheureusement, c'est que ils hypothèquent leur performance pour essayer de pas perdre de l'argent quand ils jouent au tennis. Donc ils vont se dire, finalement l'entraîneur, je vais pas le payer seul, je vais essayer de le partager avec une autre joueuse ou même à trois. Le préparateur physique, on va partager ses frais. Donc en fait, au lieu de faire une séance individuelle, tu le fais à deux ou à trois, etc. pour essayer en fait de finir quand même la saison, l'année, en ayant gagné de l'argent, parce que au final, ces personnes-là, tout le monde va arrêter le tennis à 30 ou 35 ans. Et combien de personnes peuvent se reconvertir dans les médias ou avoir une reconversion en se disant, finalement, je vais continuer à gagner de l'argent après mon premier métier qui est d'être joueur de tennis. Et c'est là où Djokovic, en fait, pourquoi il l'a pas signé? Je terminerai là-dessus pour laisser mes camarades répondre. C'est parce qu'il considère que, parce qu'en fait, si cette plainte va jusqu'au bout, il va falloir que quelqu'un vienne témoigner à la barre. Dans un des tribunaux où ils ont déposé leur plainte. Si c'est Novak Djokovic qui vient témoigner, et tout le monde sait qu'il est riche à centaines de millions, vous comprenez bien que ça n'a pas une portée auprès des jurés qui est aussi importante qu'un joueur qui est 70e ou 80e mondial et qui finit l'année en ayant fait un bénéfice peut-être de 80 000, 100 000 euros. Alors oui, bien sûr, 80 000, 100 000 euros, c'est une somme qui est importante. Et loin de moi de dire que les joueurs de tennis sont pauvres, bien évidemment. Je sais par rapport à des personnes qui travaillent tous les jours que c'est une grosse somme. Mais en tant que joueur de tennis, à 30 ans, 32 ans, 35 ans, ça s'arrête, vous n'avez plus de revenus.
80 000 pour malheureusement, un cycliste, c'est beaucoup aussi, hein, je te rassure.
Voilà, donc, mais oui, exactement, mais à 30, 35 ans, si tu n'as plus d'argent, parce que tu n'arrives plus à te reconvertir et tu gagnes plus d'argent, pour faire ça, de vivre jusqu'à la fin de ta vie avec l'argent que tu as mis de côté quand tu n'as gagné que 80 000 ou 100 000 euros par l'année, voilà, c'est un petit peu compliqué. Surtout, encore une fois, que dans notre sport, on a la possibilité d'avoir une répartition des prix meilleurs. On demande pas que ce soit plus réparti pour les vainqueurs. Les vainqueurs gagnent assez. C'est vraiment pour les premiers, deuxième, troisième tour, pour les joueurs qui galèrent. Ben oui, bien sûr.
Et maintenant, je viens de comprendre, enfin, avec ce débat, au bout de 5 ans, pourquoi j'avais autant de tennisman et tenniswoman dans cette émission. Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Julia Beneteau, parce qu'il faut à un moment donné se reconvertir. Florent Serra. Enfin, d'accord, mais je comprends tout maintenant. OK. C'est pour ça que j'ai eu acte de candidature de Roger Federer. De Joe Wilfried Tsonga, de Raphaël Nadal
dans les
jeux. Je comprends maintenant. Voilà. En tout cas, c'était passionnant et on suivra ce dépôt de plainte. Évidemment, merci beaucoup Eric Salio d'être venu nous en parler. Alors, rien à voir. Un petit peu comme les joueurs de tennis, quoique vous rêvez de changer de voiture, de partir en vacances en famille ou encore de faire le tour du monde.
RMC vous offre encore 100 000 euros.
Eh bien ça y est, c'est le moment de vous inscrire et de tenter de remporter 100 000 euros. Il est 11h45, à partir de maintenant vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, vous avez jusqu'à 11h55. Sachez-le, chers auditeurs, un d'entre vous gagnera dans quelques jours 100 000 euros net d'impôts. Jouez, 11h55. Vous avez 10 minutes. RMC au 732-16. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Il est 11h48, les grandes gueules du sport. Vous avez encore 7 minutes pour jouer, pour envoyer RMC au 732-16 et pour espérer remporter les 100 000 euros. N'hésitez pas, vous avez jusqu'à 11h55, toujours avec Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Denis Charvet. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est un week-end décisif pour la biathlète Lou Jean Monod dans la course pour le gros globe de cristal. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Marion Bartoli.
Avant de répondre, je m'en fous pas, parce qu'on a parlé de légende, j'aimerais donner une information dont je me fous pas du tout, parce que c'est l'anniversaire d'une légende aujourd'hui, Jean-Christophe Drouet, qu'on venait tout bientôt à la fin de l'émission.
Oui,
je vais le souhaiter avant que ça se termine.
Cette légende
qui a détrôné l'ancienne légende, Christophe.
Je suis un peu ton Mohamed Ali ou pas, Jean Forman?
C'est plutôt mon Joe Frazier, mais défoncé là.
Merci beaucoup, Marion. Merci, les GG. Merci. Merci, c'est très gentil.
Alors, non, je m'en fous pas pour répondre à ta question.
Ok, merci, Marion. Merci beaucoup. Jérôme Pinault.
Je m'en fous pas.
Okay.
On s'en fout pas, non.
À l'occasion donc de cette dernière étape de Coupe du Monde à Oslo, Lou Jean Monod peut encore remporter le gros globe de cristal. La première bataille a eu lieu hier, magnifique duel entre la Française et Franziska Preuß qui a tourné à l'avantage de l'Allemande pour 2/10. On va retrouver à Oslo notre envoyé spécial Julien Richard. Salut Julien.
Et bon anniversaire. Salut à tous.
Merci Julien. C'est un tout petit écart mais qui peut changer beaucoup de choses pour ce week-end.
Ah oui, 2 petits centièmes de seconde, mais 15 gros points de perdu sur Franziska Preuß au classement général de la Coupe du Monde. Lou Jean Monod avait 20 points de retard avant la course hier. Elle en a désormais 35 ce matin. Lou Jean Monod.
Ça fait chier pour parler clairement, mais c'est extrêmement cher, 15 points pour 2/10. Ça m'agace un peu de faire une course quasi parfaite et caler à 2/10. Ça fait chier que ça paye pas, mais je pense qu'arriver à produire une course de ce niveau-là, à ce moment-là de la saison, je peux en être fier. Je pense que c'est une chance. Ça peut que m'aider à devenir plus forte pour le futur.
2/10 qui change la donne parce que si on regarde le classement, Lou Jean Monod n'a plus son destin entre les mains. Même si la Française gagne les deux dernières courses, la poursuit tout à l'heure, la Mastart demain, et si l'Allemande dans le même temps termine 2e derrière la Française à chaque fois, eh bien elle décrochera le globe. Mais avec 35 points de retard, eh bien rien n'est perdu. Je vous donne juste un exemple. Lou Jean Monod s'impose tout à l'heure sur la poursuite, Franziska Preuß termine 4e, eh bien la Française s'empare du dossard jaune. En tout cas, ça promet une bataille et un duel de feu. Les deux vont s'élancer en tête à 15h50 de la poursuite tout à l'heure, une fin de saison au scénario digne d'une série de Netflix.
J'attendrais que ce soit une série française où c'est une Française qui gagne à la fin. Je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'on se mette bien la pression joyeusement les deux à l'avant de la course. Ça va être cool, ça va être riche d'apprentissage, de leçons, de stress. J'ai vraiment hâte. C'est une des plus belles manières de finir la saison, nous deux à l'avant d'une poursuite. Donc je suis pas fatiguée. Mentalement, c'est difficile parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, j'éprouve beaucoup de plaisir à être capable encore de jouer physiquement et puis mentalement à essayer de trouver les ressources que je dois créer à chaque fois.
Il faut qu'elle garde espoir, elle va gagner demain.
Voilà, et Lou Jean Monod pourra compter sur le soutien des très très nombreux supporters français présents à Oslo.
Elle aura la rage et elle va gagner.
Allez Lou, exactement, Lou Jean Monod. Une petite réaction les GG, Jérôme.
Non mais c'est fantastique pour ce sport et pour cette athlète française. Lou Jean Monod, elle est ultra régulière. Preuß a fait une saison incroyable. Au départ de la saison, on l'attendait pas à ce niveau-là. Elle est ultra régulière. Et les deux sont quelque part les plus régulières du circuit. Aujourd'hui, ça se joue. Il y a un autre grand événement qui se joue aujourd'hui à Oslo. C'est la dernière de Johannes Bö.
Ce sera demain.
On en parlera d'ailleurs. L'hommage aux frères Bö.
C'est aussi le dernier week-end. Johannes et Tarjei Bö qui arrêtent leur carrière après ce dernier week-end de Coupe du Monde.
Peut-être pouvoir se mettre à regagner du coup parce que eux c'était
nous a trop habitués
des tueurs de suspense ces deux-là quand même, surtout Johannes.
Il y a un gros suspense chez les filles, il faut être derrière
Lou Jean Monod. C'est à duel 15h50 la poursuite, et évidemment il y aura une autre épreuve demain, la Mastart. On en reparlera demain et évidemment ce sera à suivre sur RMC quasiment en intégralité, 15h50 pour cette performance on l'espère majuscule de Lou Jean Monod. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le premier monument de la saison aujourd'hui aussi.
Ah oui.
Milan San Remo, on s'en fout pas.
Ah bah, écoute,
j'ose à peine en parler à Christophe.
On fout complètement, évidemment.
Mais non, je rigole. Marion.
Mais non, pas du tout,
Jérôme.
Je m'en fous pas.
Évidemment que non.
On va laisser Jérôme.
Ah oui, il s'en fout. Alors déjà,
je m'en fous pas.
Déjà une information. Déjà une information. Tadej Pogacar n'a jamais remporté la Primavera avec Paris-Roubaix. C'est le deuxième monument qui manque encore à son immense palmarès. Alors évidemment, après sa démonstration sur les Strade Bianche il y a quelques jours, le Slovène sera l'immense favori de ce Milan-San Remo 2025. Mais Jérôme, on dit souvent que c'est un monument pas comme les autres et que celui-ci, il est extrêmement compliqué à gagner. Et c'est pas encore sûr cette année. C'est pas écrit.
Non, c'est pas écrit et c'est surtout le monument qui va avoir le plus de mal à gagner, hein, Milan-San Remo. C'est quand même une... Alors certains appellent ça une loterie, moi je dis non, c'est un suspense parce que c'est la course qui mêle le plus grand nombre de favoris au départ. Les sprinteurs peuvent gagner, les punchers peuvent gagner, les grimpeurs. Pogacar lui sait tout faire, mais il devra partir de loin aujourd'hui. Il
y a descendeur comme Moritz.
Ouais, il faut très bien descendre. Il y a un élément important à retenir. Parce qu'on a déjà quelques images, c'est qu'aujourd'hui, le temps va être exécrable entre Milan et San Remo. Ouais. 300 km dans le froid, sous la pluie. Pogacar aime bien ça. Il n'y a pas que lui. Ça peut nous donner un final à suspense. Espérons qu'il ne bascule pas avec une minute d'avance en haut de la Cipressa. Et d'ailleurs, moins
tu vois
suspense.
Tu vois comment Van Der Poel?
Bon, c'est l'outsider principal. Ghana, Van Der Poel, Pidcock,
Pedersen,
Milan Menten, Michael Matthews.
Christophe, on a envie qu'il gagne Pogacar pour comme ça, il y a encore plus de chances d'aller sur Paris-Roubaix après pour avec Pogacar.
Oui. Et puis on a envie qu'il arrive à avoir tous les monuments dans sa poche, mais je pense que c'est pas encore gagné d'avance. C'est la quatrième fois qu'il participe à Milan-San Remo. Sa meilleure place était troisième l'an dernier. Il avait été douzième, cinquième, quatrième. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la clé de la course. Parce que c'est pas la course qui sacre le plus fort, mais sans doute le plus malin ou celui qui a le plus de chances de se retrouver au bon moment pour arriver à partir. Il faut vraiment, c'est une course hyper tactique. Et si t'as pas lâché tout le monde en haut du Poggio, c'est adieu là.
C'est une guerre, des nerfs, c'est sûr. C'est la, faut être patient et faut mettre le coup de massue au bon moment et pouvoir lâcher les meilleurs sur les dernières pentes. Mais la dernière pente, elle est encore à 8 km de l'arrivée.
Ouais, alors, puis c'est 4 km à 3,7%. Hein, c'est pas normal.
Au bout de 300 km, quand même.
Oui, c'est sûr. Au bout de 289.
C'est commenté cet après-midi par Christophe Cessieux, par Jérôme Pinault. Milan-San Remo, c'est à suivre.
Et Maria Azé.
Pardonnez-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais juste vous donner son nom parce que c'est une performance exceptionnelle. C'est la perchiste française Marie-Julie Bonin qui est devenue championne du monde en salle à la perche. C'est la première française de l'histoire à devenir championne du monde. Elle a réussi cette performance cette nuit en Chine. Elle a effacé une barre à 4,75 à son deuxième essai, égalant d'ailleurs le record de France de la discipline. Elle a 23 ans, elle est bordelaise. Elle était déjà médaillée de bronze au championnat d'Europe il y a deux semaines. Et là, elle décroche son premier titre international. Voilà, c'était important d'en parler. Marie-Julie Bonin, bravo pour cette performance. C'est sûr qu'elle se retrouvera sur RMC ce week-end.
Tu n'as pas parlé d'une femme présidente du CIO aussi?
Demain, on a le temps.
Demain,
en plus, on a David Douillet, il adore ça, les instances, tout ça. C'est son dada.
Défaite cuisante pour notre Français.
David Lappartient.
Grosse défaite.
Il n'a pas gagné tout le temps non plus.
Ça va, il a toutes les casquettes. Ça va. Il a même piqué celle de mes enfants dernièrement. Ça va, les casquettes. Merci beaucoup, les GG.
Il a une tête à casquette.
Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Denis Charvet. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, les Paris RMC. On vous embrasse très fort. Et demain, les GG du sport à 9h. Salut.